Vous écoutez Radion, il est 21h passé de quelques secondes. Bonsoir à toutes et à tous, Yannick Petit au micro pour vous inviter à monter à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Après presque 2 mois de vacances, il est temps effectivement de vous retrouver et de vous offrir, comme chaque mercredi depuis novembre 2010 sur votre radio locale, des rencontres avec les auteurs que nous avons le plaisir d'accueillir devant notre micro. Alors, durant l'été, nous avons beaucoup lu, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité littéraire, mais la rentrée littéraire annonce plus de 500 romans. Et début juillet, nous nous sommes rendus en Saône-et-Loire, au Creusot, pour participer et découvrir les rencontres littéraires des Polars du Chat, deuxième édition organisée par Patricia Félix. Des rencontres littéraires autour du monde du roman policier, du polar, du thriller et de la littérature fantastique. Des rencontres qui avaient lieu dans un site prestigieux puisqu'il s'agissait du château de la Verrerie au Creusot et c'était les 8 et 9 juillet. À cette occasion, j'ai animé 3 tables rondes que nous allons vous proposer dans les semaines à venir et ce soir, première table ronde, au cours de laquelle vous entendrez Estelle Tarot, auteure franc-comtoise, venue plus précisément du département du Doubs au Polar du Chat. Elle a fait paraître Orage et L'Impasse, 2 thrillers aux éditions Tornada, et elle était accompagnée d'un autre auteur venu de Lyon, Gilles Caillot, qui signe La couleur des âmes mortes, un thriller terrible autour du crime pédophile. On va donc en savoir un petit peu plus ce soir. Estelle Tarot. Estelle Tarot est installée à Nancré, dans le Doubs. Elle est actuellement en disponibilité et se consacre entièrement à l'écriture et à sa famille. Avec son roman Orage, Estelle Tarot a choisi de faire évoluer ses personnages à la campagne, dans un petit village qui a pour nom Sauveur. Accompagnée de sa fille, l'héroïne, Béatrice Clare, arrive dans cette paisible bourgade pour y exercer un nouvel emploi et débuter ainsi une nouvelle vie. Elle succède à la comptable qui a trouvé la mort de manière accidentelle, qui va se révéler d'ailleurs de plus en plus étrange. Estelle Tarot situe donc l'action de son roman à la campagne, loin des traditionnels grands ensembles urbains. Elle s'en explique d'ailleurs à notre micro, c'était au château de la Verrerie, au Creusot, lors des Polars du Chat, le 8 juillet dernier. Estelle Tarot.
Enfin, le thriller, c'est vrai que par essence, le thriller est quand même, comme le roman noir, sont quand même toujours dans des ambiances urbaines. C'est vrai que la plupart du temps, on parle de cette violence urbaine, de cette ultra-violence qu'on voit de toute façon souvent aux informations. Et on oublie souvent que dans les campagnes, loin des cartes postales, loin de la chaleur aussi, hein, du fait que tout le monde se connaisse, de cette amabilité, cette courtoisie, se passent bien souvent des drames et des tragédies bien plus sombres, bien plus cachées. Et c'est ce que j'essaie de retracer de toute façon dans mes romans, qui sont soit dans les campagnes comme Orage, soit sur des petites villes. Ben, L'Impasse s'inspire largement de la ville de Monceau, qui est d'ailleurs juste à côté. Parce qu'il y a vraiment des tragédies humaines bien plus cachées, bien plus profondes. Et donc c'est ce que va découvrir Béatrice et Célia quand elles arrivent à Sauveur pour refaire leur vie, donc refaire leur vie dans un lieu de carte postale quelque part. Elles vont découvrir cette douceur de vivre, le fait que tout le monde se connaisse, le fait que les gens paraissent plus facilement abordables et aimables, et la mort de celles qui les ont précédées va faire qu'elle va se rendre compte qu'il y a des haines enracinées, profondes, cachées et très noires. Et donc là, c'est vrai que derrière la carte postale, il y a toute la noirceur, je dirais universelle, entre guillemets, de l'âme humaine qu'on retrouve aussi bien en ville qu'en campagne. Mais il ne faut pas oublier que les arbres et les petites fleurs et les vieilles pierres renferment des choses qui sont assez sombres, oui.
Dans ce village de Sauveur, donc, il y a 2 familles importantes. Il y a les Flérel, donc lui, Monsieur Flérel, il est boucher, c'est un homme assez abrupt. Il est boucher ER, hein. Il est abrupt, il est rude même avec son fils, qui est également un jeune adolescent qui va très rapidement entrer, enfin, en relation de sympathie avec Célia dans le même établissement scolaire de ce village. Et puis il y a M. Julien, alors la famille Julien, et M. Julien, lui, est le maire du village. Un maire charmant, et en fin de compte, il y a toujours un grain de poussière, un grain de sable qui, bien évidemment, vient déstabiliser ce petit paradis de campagne, cette vie rustique où ces deux femmes comptaient se reconstruire. En tout cas, Béatrice avait besoin de se reconstruire, puisque le roman s'ouvre en disant, finalement, j'ai tout raté, les hommes m'ont bien eu, c'est une fille mère. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions de conditions féminines dans ce roman.
Tout le temps et souvent. C'est pareil, le thriller, en dehors d'être urbain, le thriller est extrêmement masculin. La femme est souvent soit l'innocente victime, forcément belle, jeune, qu'on éviscère à foison, soit la femme fatale qui, de toute façon, va planter un couteau dans le dos ou va, de toute façon, se faire assassiner. Ou bien, je pense qu'il y a une autre place, tout bonnement, parce que déjà, les femmes ont une autre place dans la société. Elles ont aussi des destins qui permettent une certaine ambiguïté, justement, ce rôle de mère, ce rôle de grand-mère, ce rôle de fille, ce rôle d'épouse. Et il y aura, je pense, toujours des femmes dans mes romans, jeunes, très jeunes, plus vieilles, mais elles seront toujours, toujours dans les romans. Donc c'est ce que j'ai voulu aussi. Il y a plusieurs personnages féminins dans Orage, qui ont plusieurs facettes et plusieurs rôles. Il y a plusieurs mères aussi, plusieurs types de mères dans ce roman, plusieurs destins de femmes dont on se dit qu'ils auraient pu être autres si elles avaient vécu différemment, dans une autre époque, dans un autre contexte, peut-être avec d'autres parents, peut-être avec d'autres rencontres masculines également.
Alors, ces destins de femmes, Estelle, apparaissent dans un journal intime que l'adolescente Célia retrouve dans la maison qui est mise à leur disposition par la municipalité, maison d'ailleurs qui semblerait soit un peu écrasée par une malédiction. Il y a une histoire autour de cette maison, et la jeune fille, investissant les lieux, installant sa petite chambre, met la main sur un journal intime, qui est le journal intime d'une femme. Journal intime qui débute en 1907, me semble-t-il.
Oui, c'est ça. Début,
oui. Un tout petit peu avant la Première Guerre mondiale. Et effectivement, il y a dans le roman d'Estelle Tarot, et c'est très habile aussi ce point de vue, journal intime qui s'enchevêtre avec la réalité, le quotidien des deux femmes, les deux héroïnes qui sont finalement les enquêtrices et qui tout d'un coup sentent bien que la sérénité de ce village n'est que pure apparence, que cette sérénité cache une situation extrêmement malsaine et très grave en fin de compte.
Et très ancienne. C'est un petit peu les racines justement de toutes ces familles qui sont restées là depuis des années, qui ont couvé, je dirais, de toute façon leur rancœur, qui ont couvé les drames, tous ces secrets qui n'ont jamais été révélés. Et aussi, en miroir, les situations de femmes qui se sont retrouvées mariées ou pas mariées, de toute façon mariées, célibataires, mais qui se sont retrouvées bien seules dans leur époque, bien seules pour trouver leur place. Et donc, dans le journal intime, c'est la vie de Marthe, cette paysanne dont on va découvrir la vie à peu près 1910-1940, dans ces eaux-là, dans les fermes franc-comtoises, qui va faire des rencontres un peu qui vont bouleverser son quotidien. Mais il est vrai que je voulais, dans ce thriller, y mettre aussi les conditions des femmes aujourd'hui, mais les conditions des femmes avant. Parce que nos conditions actuelles, dans ce dont elles ont pu progresser, ou alors dans les problèmes qu'on rencontre toujours, ont leurs racines, des racines bien plus lointaines. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en Franche-Comté, j'avais visité le musée des maisons comtoises, qui est dans le village dans lequel j'habite actuellement.
À Nancré.
À Nancré. À l'époque, quand j'ai écrit Orage, je n'y habitais pas, je ne savais pas. Et j'ai été marquée, c'est un musée à ciel ouvert, j'étais marquée justement par la vie que, j'imaginais la vie que pouvaient avoir ces femmes à ce moment-là. Et donc je voulais que ça transparaisse dans le roman. Donc en effet, c'est un récit croisé, c'est une enquête croisée entre les éléments qu'on retrouve dans le journal intime et les éléments que la maman, elle, va glaner dans le présent. C'est deux récits, en fait, en effet, passé et présent, qui se tressent pour arriver au dénouement.
Estelle, vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a, mais c'est un peu valable dans beaucoup de polars, même si certains auteurs ne veulent pas suivre cette ligne-là, il y a tout de même un combat du bien contre le mal, que ce soit à la fois dans le journal de Marthe, alors parfois c'est les hommes qui incarnent le mal, c'est les hommes qui violentent les femmes, les violent, les poussent au suicide, en font des chimères, donc comme Béatrice Clarke dans ses années 2000-2010. Vous êtes d'accord sur cette notion du bien et du mal qui s'affrontent sans arrêt ?
De toute façon, c'est, quel que soit le roman, même pas forcément le thriller, c'est exacerbé dans les romans policiers et le thriller, mais c'est une lutte quotidienne de toute façon. Que ce soit par des valeurs, que ce soit par des mots, le bien et le mal forcément s'affrontent dans le thriller, ça l'est. La seule chose, c'est que dans ces romans, les femmes ne sont pas uniquement le vecteur du bien. Je ne veux pas tomber dans une sorte de manichéisme, parce que de toute façon, je pense qu'en chacun de nous, voilà, il n'y a pas de... je pense que tous autant qu'on est, nous ne sommes pas que bien ou mal. C'est un mélange des deux. Donc c'est pour ça que dans les romans, bien souvent, les personnages sont quand même assez ambigus. Certains, peut-être, sont plus portés, en effet, sur le bien, sur le mal. Mais voilà, après, c'est parfois aussi... le mal peut provenir aussi des mauvais choix que l'on peut faire, etc., etc. Donc oui, c'est de toute façon des combats entre le bien et le mal.
Bon, et les hommes n'ont pas forcément un très bon rôle.
Mais les femmes non plus.
Julien Flérel, les deux notables du village de Sauveur, ne me sont pas apparus de manière très sympathique. L'adolescent, bon, Yann Flérel, lui, il est un petit peu insipide. Je dirais que c'est surtout Célia qui le remue et qui a envie de découvrir la vérité, tout comme Béatrice. Il y a une espèce d'intuition féminine, d'intelligence, de clairvoyance, de lucidité des femmes que les hommes n'ont pas, les hommes étant plutôt les forces des ténèbres, étant plutôt obscures. Non, mais je ne cherche pas non plus.
Non, bien sûr. Non, mais de toute façon, je dirais que pour le personnage, le fils Flérel, je ne pense pas qu'il soit insipide, je pense qu'il est surtout extrêmement déchiré et écrasé par la présence de son père. Ça, c'est certain. C'est juste quelqu'un qui a besoin de sortir justement de la chape de plomb du village de Sauveur pour voilà, s'exprimer. Oui, les hommes n'ont pas le beau rôle, mais de toute façon, là je transcris des destins de femmes qui se sont retrouvées dans cette situation par des hommes, et donc il est clair que dans ce roman-là, même dans les prochains, les hommes n'ont pas forcément le beau rôle, ça c'est évident. Mais parce que ces femmes, parce que la condition féminine fait que nous n'avons pas souvent, dans tous les domaines, le beau rôle. Donc là, c'est pas vraiment une vengeance, mais on va remettre un petit peu les pendules à l'heure avec quelques mots, on va dire.
Estelle Tarot, dans le village de Sauveur, il y a une femme, qui est une femme âgée, qui vit retirée, qui a été la bienfaitrice de ce village, un petit peu comme la famille Schneider a eu son importance ici au Creusot. Cette femme, c'est Madame Lebon, Flore Lebon, et qui est un personnage progressivement au cœur et qui détient un peu tous les fils de l'histoire de ce village.
Tout à fait.
Alors, on ne va pas trop en dire.
Non, mais c'est vrai que Flore Lebon... c'est Sauveur quelque part. Donc c'est Sauveur dans ce qu'il y a de bien et de mal, et c'est elle qui détient tout ça. Et j'aime toujours mettre, je ne sais pas pourquoi, une femme âgée dans mes romans, parce que c'est une forme de mémoire. C'est une forme de mémoire et c'est une forme aussi de régulateur dans ce qu'elle peut dire ou ne pas dire sur la vie du village, dans ce qu'elle peut faire ou ne pas faire pour justement changer des destinées présentes. Et Flore Lebon, c'est tout à fait ça. Elle connaît Sauveur, elle sait ce qui s'y passe, Elle connaît des choses, elle sait certaines choses, et son mutisme ou sa parole fait qu'elle a une action et un pouvoir direct sur la vie présente des gens dont elle n'a d'ailleurs, avec lesquels elle n'a pas forcément de lien.
À l'instant, c'était Estelle Tarot lors de la table ronde organisée à l'occasion des rencontres littéraires des Polars du Chat. C'était le 8 juillet dernier au château de la Verrerie au Creusot. Estelle Tarot qui était invitée, ainsi que Gilles Caillot, donc, à débattre à la fois sur leur roman et sur certains aspects du polar et du thriller. Gilles Caillot, que vous allez d'ailleurs entendre d'ici quelques minutes, signe, lui, aux éditions du Caïman, un thriller absolument remarquable qui a pour titre « La couleur des âmes mortes ». C'est l'histoire d'un crime pédophile, une petite jeune fille de 13 ans qui a été violée et assassinée. Et toute la réflexion qui est engagée dans le roman de Gilles Caillot est orientée vers la vengeance, le désir de vengeance. Mais si vous le voulez bien, on marque ce soir à bord de Wagon Livre une première pause musicale. Je vous rappelle que nous sommes ensemble sur Radion jusqu'à 22h.
Sublime et silence, autour de moi tu danses et moi j'oublie. C'est à toi que je pense, à ta bouche brûlante quand tu souris. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi. Sublime et silence, autour de toi tout tremble et tout finit. C'est à moi que tu penses, à nos ivresses blanches où fuit Paris. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi. Mais je sais que tu restes dans les fleurs que je te laisse après la nuit. Violence et promesses, c'est tout ce que tu détestes, la mort aussi. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi. Te ressemble, au moins en apparence, pourtant tu fuis. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi. Mais je sais que tu restes dans les fleurs que je te laisse après la nuit. Violence et promesses, c'est tout ce que tu détestes, la mort aussi. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Suite de la table ronde qui rassemblait Estelle Tarot pour son roman Orage et Gilles Caillot pour son thriller La couleur des âmes mortes, c'était à l'occasion des rencontres littéraires des Polars du Chat qui se sont tenues les 8 et 9 juillet 2017 derniers au château de la Verrerie, au Creusot. Les Polars du Chat, unique en Bourgogne, un jeune salon dédié aux polars, aux thrillers et à la littérature fantastique. Il bénéficie du soutien de la ville du Creusot et sa dynamique organisatrice, Patricia Félix, a donc réuni une trentaine d'auteurs dans un lieu prestigieux, je vous le disais, le château de la Verrerie, qui a été longtemps propriété de la famille d'industriels Schneider. Le Creusot, qui, vous le savez sans doute, durant la seconde moitié du 19e siècle, a été un site sidérurgique très important en Europe. Et puis donc, les tables rondes que nous avons menées ont pour but, bien sûr, de faire se rencontrer les auteurs ainsi que le public, mais d'aborder aussi les centres d'intérêt des écrivains, et notamment de savoir ce qui les intéresse le plus. À savoir, est-ce que c'est le crime ou la personnalité du ou des criminels ou des enquêteurs qui intéresse le plus l'écrivain? Voici, dans un premier temps, le point de vue d'Estelle Tarot, qui, je vous le rappelle, signe aux éditions Tornada un thriller intitulé Orage. Estelle Tarot.
Pour moi, le crime n'a pas d'importance. C'est le ressort, c'est le déclencheur, c'est un élément. Je dirais que ce qui m'intéresse le plus déjà, c'est l'intrigue, c'est le puzzle à faire, parce que ça, c'est très intéressant pour le travail d'écriture. Et après, c'est les personnages. Indéniablement, les personnages. Le crime en soi n'a pas tellement d'importance. C'est vraiment, d'ailleurs, les gens qui sont assassinés dans mes livres ont une importance secondaire par rapport aux personnages qui vont graviter autour et aux secrets surtout qui vont graviter autour. Il y a toujours une notion de secret et c'est vraiment cette intrigue et les personnages qui la tissent qui m'intéressent. Le crime en soi n'a que peu d'importance, vraiment.
Reconnaissez, Estelle, que le secret, c'est un peu l'apanage des femmes?
Y a-t-il des jokers pour cette interview?
Vous pouvez.
Non, il est vrai. Mais je dirais que c'est toute la différence entre la testostérone et les oestrogènes. C'est très clair. On n'a peut-être pas cette force physique et cette violence. Et une femme va compenser pour moi par d'autres choses. Peut-être le secret, peut-être la manipulation aussi. Chacun ses armes.
Estelle, par rapport à votre relation avec la mort, vous êtes en relation avec la mort par le biais de l'écriture. Vous faites mourir vos personnages, mais vos personnages sont des personnages de papier. Oui. C'est une façon de ne pas mourir soi-même. On fait mourir les autres pour ne pas mourir soi. Quelle est votre approche de la mort sur un plan personnel ou philosophique?
Alors, c'est très compliqué. Pour moi, la mort, c'est très difficile de parler de la mort ou de sa mort, de ce qu'on voit de sa mort. C'est déjà deux choses très différentes. La mort, c'est vrai que ça dépend aussi de la façon dont on voit la vie. Alors après, on fait appel quand même beaucoup à sa vision, qu'elle puisse être religieuse, philosophique, ou etc. Bon, il s'avère que pour moi, c'est une étape de... C'est un grand secret, justement, puisqu'on parlait de secret. C'est une étape, pour moi, nécessaire, qui fait partie d'un cycle, cette mort-là. C'est un grand mystère. Je pense que le plus terrible dans la mort, c'est son propre chagrin quand ce sont des êtres chers ou le chagrin des autres. Parfois, quand la personne nous touche moins, je pense que c'est ce qui est le plus tragique. Mais après, j'espère que c'est une grande aventure qui continue. Alors, grande aventure, je ne vois pas des paradis, etc. Je suis athée, donc je préfère le dire, comme ça on met tout de suite les choses au point. Mais je pense que ouais, c'est une étape, ça fait partie d'un grand tout, c'est une étape qui permet à d'autres de prendre la place. Voilà, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère.
Alors, je vais faire la passerelle avec le roman de Gilles Caillot, à qui je vais bien sûr donner la parole. Estelle, le thriller, le polar sont des univers littéraires qui ont désormais acquis leur lettre de noblesse. Hein. Simenon est publié dans la Pléiade. Est-ce que vous pensez qu'on peut aborder tous les sujets, les plus violents, les plus sordides, les plus scabreux, par le biais de l'écriture d'un policier, d'un polar ou d'un thriller? Je pense, et c'est pour annoncer le roman de Gilles Caillaud qui aborde le thème de la pédophilie. Un pédophile est au cœur de son roman qui s'intitule « La couleur des âmes mortes ». Est-ce que vous adhérez au fait que le polar, le thriller, va là où ça fait mal? Par exemple, je me rappelle, il y a quelques années, avoir interviewé Marc Charuel. C'était lors de Livre en Vigne au château du Clos de Vougeôles. Marc Charuel était revenu sur les, vous savez, ces jeunes appelés du contingent qu'on avait retrouvés violés et tués par un militaire. Et Charuel expliquait que l'armée française, alors que lui était officier de réserve, l'armée française lui avait fermé les portes. Je me rappelle de David Hampton qui, lui, par exemple, avait écrit un thriller dans lequel il était question de religion, l'action se passait à Jérusalem. Alors vous, Estelle, est-ce que le polar peut aborder les sujets les plus graves qui peuvent choquer et moralement poser problème à la société et au lecteur?
Je pense qu'on peut en effet tout aborder en littérature. Les deux seules questions sont comment on les aborde et pourquoi on les aborde. C'est-à-dire que si on les aborde vraiment en dehors de tout voyeurisme, dans l'intention et dans la manière, oui, en effet, elles peuvent tout peut être abordé. Aucune raison qu'il y ait des tabous, sinon, de toute façon, on censurerait la moitié de ce qui nous vient de l'extérieur, de par de toute façon, les médias. La seule chose que je n'aime pas dans la littérature, qu'elle soit thriller ou autre chose, c'est de prendre des sujets qui font mal pour racoler. Je n'aime pas le voyeurisme. Après, quand un livre aborde des sujets de façon, je dirais, délicate, délicate ne veut pas dire on voit le tout, mais dans le but, en effet, de parler du sujet et non pas de racoler des lecteurs pour faire du sensationnel, je dis que oui, on peut tout aborder. Mais le voyeurisme, dans le thriller, on en voit beaucoup, et ça, j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Mais quand c'est bien fait, oui.
Merci Estelle Tarot. Donc je rappelle le titre de les deux romans qui sont là entre mes mains. D'abord Orage, dont nous avons beaucoup parlé, donc ce village de sauveurs où il y a toute une série de meurtres et tous les 15 ans, enfin c'est très très habilement mené. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir et en plus je suis franc-comtois, donc je suis né à Morteau dans le Doubs.
Ah oui, on n'est pas très loin en effet.
Et L'Impasse, c'est aux éditions Tornada. Nous sommes bien d'accord. Quelques applaudissements pour Estelle, s'il vous plaît.
Merci.
Alors, nous accueillons Gilles Caillaud pour un thriller, La couleur des âmes mortes. Alors, Gilles, beau roman d'angoisse. Alors, j'avoue, moi, je ne suis pas un grand lecteur de polar. Quand Patricia Félix m'a gentiment contacté en me demandant d'animer des tables rondes ici au Polar du Chat, je lis le roman de Gilles Caillaud, La couleur des âmes mortes, et ça me plaît énormément. Et pourtant, c'est très violent, et je ne suis pas habitué à ça, ni dans ma vie, ni dans mes lectures. Et Gilles, d'abord, quelques mots de présentation. Qui êtes-vous? Je crois que vous avez la cinquantaine. Presque.
Fallait pas le dire.
Non, mais je voyais toutes ces femmes qui, effectivement, ont des yeux d'amour pour vous. Il y a une dame, d'ailleurs, dès qu'on a dit, il y a Gilles Caillaud à la table ronde, a dit « Ah ben oui, je viens ». D'ailleurs, elle doit être là. Donc, je ne la dénoncerai pas.
Ah ben merci Gilbert.
Alors, donc, Gilles Caillaud, donc, présentez-vous un petit peu, s'il vous plaît.
Donc, effectivement, j'ai 50 ans, tout rond. Je suis père de 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Je suis ingénieur de formation, je suis lyonnais. Et je travaille comme directeur de projet informatique. Donc, un métier assez prenant qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal à trouver du temps pour écrire. L'écriture a toujours été une passion dévorante, depuis maintenant 12 ans. Et je me suis toujours astreint à écrire tous les jours. Aujourd'hui, j'ai plus de mal. Donc, il faut impérativement que je retrouve du temps pour finir mon prochain bébé qui est en cours depuis 2 ans. Donc, ça commence à être long. Donc il faut que je le boucle, parce qu'il y a pas mal de lecteurs qui attendent justement le prochain, et moi aussi d'ailleurs. Voilà, en fait, j'ai commencé à écrire bêtement, parce qu'en fait, je suis scientifique pur jus, hein, école d'ingénieur. Donc je n'avais pas forcément une appétence particulière sur l'écriture, voire même la lecture. Je lisais assez peu finalement. J'ai lu un peu de King comme tout le monde. Et puis finalement, j'ai lu Chatham, Maxime Chatham. Et j'ai retrouvé, parce que j'avais écrit quand même quelques nouvelles d'horreur, en fait, initialement, quand j'étais jeune adulte. Et j'ai retrouvé vraiment l'univers que j'affectionnais. Et ça a été le déclencheur, en fait, pour me dire, bah voilà, en fait, c'est exactement l'univers dans lequel j'ai envie d'écrire. Et le plaisir que j'ai pris, finalement, m'a donné l'énergie, justement, pour me lancer dans un premier roman. Donc, premier tome de la série Zanetti, hein, dans lequel il y a 4 tomes qui aujourd'hui ne sont plus trouvables dans le commerce, puisque j'ai appris mes droits. C'est une quadrilogie qui est extrêmement violente, pour le coup, hein, bien plus que La couleur des âmes mortes. Bon, là, il y a de la violence psychologique. Dans la quadrilogie, c'est plus de la violence physique, sachant qu'il y a quand même une empathie très forte au niveau des personnages. On a un personnage récurrent qui fait qu'effectivement, on le voit grandir, aimer, pleurer. Et je pense que c'est aussi ça, dans des bouquins, que ça marche ou pas. Si il n'y a pas d'empathie pour un personnage, de toute façon... Moi, il y a tas de bouquins que j'arrête au bout de 20 pages, 30 pages, 50 pages, parce que je n'ai pas d'empathie avec les personnages. Donc je pense que tu me poseras la question sur qu'est-ce qui est important dans l'écriture. Pour moi, il y a deux choses cruciales. Alors, au début, j'étais plus dans l'intrigue, le quadrilogie Zanetti, et finalement, je me suis tellement attaché à mes personnages que c'est le personnage qui a pris le lead complet. Et en fin de compte, l'intrigue, elle découle des personnages. C'est-à-dire qu'on met les personnages, on appuie, et puis ceux qui font l'histoire.
Parce qu'en fait, effectivement, ce que Gilles Caillot utilise comme ligne narrative et psychologique, c'est que chacun des personnages s'exprime. Il y a un chapitre, tantôt c'est le pédophile qui s'exprime, tantôt c'est le père meurtri dont la fille de 14 ans a été violée et assassinée par un pédophile, à savoir, est-ce le bon pédophile ? Parce qu'il n'y en a pas qu'un. Et c'est cet enchevêtrement de points de vue qui, effectivement, donne une dynamique au roman. Il y a tantôt les psychothérapeutes, tantôt les policiers, tantôt les victimes. Parce qu'il y a aussi sur les femmes, il y en a pas mal des victimes, des hommes. Il y a une scène terrible. Alors moi, ça me fait rire. Le psychothérapeute qui couche avec une pute, la scène de sodomie, tout ça... Moi, ça me fait rire, mais il y a des gens qui sont choqués. La preuve, j'expliquais à Gilles que j'avais mis quelques extraits, j'avais pas mis les plus violents, mais j'avais mis quelques extraits que j'avais scannés sur la page Facebook de l'émission, et il y a eu des commentaires qui m'ont été faits en disant qu'on ne pouvait pas, parce que j'avais interviewé Christophe Onodibio il y a quelques semaines, on m'avait dit, monsieur Petit, on ne vous suit plus, on ne peut pas aimer les deux. Ben si, on peut aimer la littérature blanche et on peut aimer la littérature noire, et une littérature noire qui brille.
Après, effectivement, je pense que là on parlait donc du roman choral, puisque là, effectivement, il y a deux voix. La plupart de mes bouquins, il n'y a qu'une seule voix. Donc au départ, même au niveau des premiers, c'était plutôt une caméra extérieure, donc c'était la troisième personne, plutôt descriptif. Et puis j'ai commencé à faire bouger mes caméras, en fait, finalement, pour commencer à faire du roman à la première personne, avec l'apparence de la chair, où là, finalement, l'héroïne, c'est une femme. Ce qui est étonnant pour un homme d'écrire aussi, prendre une héroïne femme, parce que c'est pas simple pour un mec de se mettre dans la tête d'une fille, surtout la première personne, on la décrit à la limite on peut, mais être dans sa pensée et ses secrets, n'est-ce pas Estelle ? C'est compliqué. Donc, mais finalement, ça doit être ma part féminine qui doit être très grande et qui me permet justement. Alors après, j'ai quand même des validations, hein, j'ai une trentaine de lecteurs tests, hein, qui me permettent de vérifier que. C'est OK ou c'est pas vraisemblable, etc. Par contre, ce qui est intéressant, alors pour revenir à La couleur des âmes mortes, pour moi, c'est un roman viscéral. C'est un roman qui est basé sur une de mes peurs phénoménales, qui est la perte d'un enfant et le meurtre d'un de mes enfants. J'ai 3 filles, 3 garçons, et en fait, ce roman-là, je l'ai voulu parce que, justement, je voulais m'éprouver, moi, déjà, éprouver le lecteur, essayer de lui transmettre finalement la force des émotions. Et je pense que là-dessus, ce qui fait la force du bouquin, outre l'intrigue, hein, outre la fin, etc., Je pense que là-dedans, on y trouve vraiment l'émotion. L'émotion de perdre un enfant pour la mère, par exemple, hein, qui s'exprime à la première personne. On peut sentir sa douleur, vraiment. Enfin, quand elle va devoir choisir le cercueil de sa fille ou quand elle va l'enterrement de sa fille. Enfin, c'est des moments qui sont extrêmement durs, psychologiquement parlant. Et puis, j'avais aussi envie de donner la vision du pédophile. Parce que je me suis toujours posé la question, finalement, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir? Donc j'ai fait beaucoup d'investigations, bon, pas mal sur Internet, hein. Il y a un passage d'ailleurs dans le bouquin qui est issu et qui est complètement vrai. Hein, pas censuré.
Oui, c'est la reproduction d'un témoignage de pédophile.
Un témoignage sur un forum pédophile. Et quand j'avais lu ça, je me disais, voilà, il faut que je le mette parce que ça colle vraiment à l'éclairage que je voulais aussi donner.
À l'instant, c'était Gilles Caillot qui signe un excellent thriller aux éditions du Caïman, thriller qui a pour titre « La couleur des âmes mortes ». On retrouve cette table ronde juste après la pause musicale que nous vous proposons. Je vous rappelle que vous êtes sur Radiode et que c'est Wagon Libre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Traverser des contrées sauvages en priant le ciel que tu ne te retournes pas. J'ai claqué la porte, déposé mes bagages et mon innocence au mauvais endroit. Épuisé mes rêves jusqu'à perdre l'envie, s'il faut marcher au pas. Plus la chute est lente, plus on tombe dans l'oubli, moins les gens vous tendent les bras. Comprendre seul sous les orages, il n'y a que des songes entre une femme et une reine, que des illusions de passage. J'ai compris les règles qui sont tapis dans l'ombre, j'ai appris à être un soldat. Malgré les discours et la force du nombre, jamais je ne marcherai au pas.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Les 8 et 9 juillet derniers se tenaient les Polars du Chat, salon du livre consacré au thriller, au polar et à la littérature fantastique, un salon qui se tenait au château de la Verrerie, au Creusot. Des tables rondes étaient organisées et regroupaient quelques-uns des 30 auteurs invités à cet événement littéraire autour du polar, un événement unique en Bourgogne. La table ronde que nous diffusons ce soir sur Radion réunissait Estelle Tarot et Gilles Caillot. Gilles Caillot qui signe La couleur des âmes mortes aux éditions du Caïman, un roman au cœur duquel a été commis un affreux crime pédophile. En effet, Marine, 14 ans, est violée et assassinée dans un bois de la banlieue ouest de Lyon. Le désir de vengeance est immense chez le père de la jeune victime. Alors, la vengeance est totalement au cœur du roman de Gilles Caillot, dont je rappelle le titre, La couleur des âmes mortes. C'est un roman qui est disponible aux éditions du Caïman. Vous pouvez d'ailleurs le commander aussi bien chez votre libraire que sur le site internet des éditions du Caïman. Jusqu'où pouvons-nous aller pour satisfaire notre soif de vengeance? Est-ce que l'on peut aller jusqu'à la perversion de notre propre âme? Réponse, Gilles Caillot.
Pour moi, je pense qu'en première réaction, réaction à chaud, forcément on va avoir envie de se venger, ça c'est évident. On a envie de faire la peau, voire même pire que ça, torturer la personne qui a touché un cheveu de votre fille et lui faire regretter d'être venu sur Terre, très clairement. Après, justement, c'est jusqu'où on peut aller dans la violence et dans la vengeance, parce que finalement, qu'est-ce qu'on va y gagner? Et c'est pour ça qu'il y a toute cette trame finalement de bouquin où on va voir évoluer la vengeance côté féminin, comment elle va aborder ce thème-là, comment l'homme va le faire justement avec sa dose de testostérone qui est un peu différente, ce qui va faire qu'il va se lancer lui dans des choses un peu plus, on va dire, un peu plus engageantes et quitte à se perdre lui complètement.
Se pose le problème de la situation des pédophiles, alors de ceux qui bénéficient de soins. Vous avez dû énormément vous documenter, puisqu'on assiste aux séances du pédophile avec la psychiatre, le psychologue, le psychothérapeute, qui a la possibilité ou non de laisser sortir une personne ou pas. Mais il y a aussi un autre personnage, c'est celui qui enferme des gens et qui abuse de son autorité médicale. C'est aussi une réflexion sur l'enfermement. Oui. L'enfermement dans sa tête, la vengeance, qui est un enfermement dans sa tête, un enfermement sur sa souffrance, et puis l'enfermement, l'univers carcéral et l'univers psychiatrique aussi. C'est très intéressant. Moi, j'ai une amie qui me dit « Je ne ferai absolument pas confiance à un psychiatre. »
Moi non plus. En fait, le psychiatre, c'est une de mes bêtes noires, donc je le mets souvent dans des romans, très souvent. Et j'aime bien les titiller un peu, oui.
Concernant le pédophile.
Pourquoi, mais les gens qui manipulent le cerveau, qui font de l'hypnose, je leur fais une confiance vraiment très très modérée.
Alors peut-être qu'ils sauvent aussi des personnes.
Peut-être. Mais franchement, j'ai du mal.
Il y a des médecins qui font des erreurs de diagnostic. Vous savez, j'ai un jour, en bavardant avec Denis Sesnec disait. Vous savez, c'est le petit-fils de Sesnec qui militait pour qu'on réhabilite la mémoire de son grand-père, condamné au bagne pour un meurtre resté effectivement un peu flou. Denis Sesnec dit que si on faisait des prélèvements sur des ossements ou des restes de corps humains dans les cimetières, on se rendrait compte que peut-être à 40%, ces gens sont victimes d'erreurs médicales. Donc Gilles Caillot, vous, l'univers psychiatrique, c'est un univers que vous rejetez. Alors que fait-on des pédophiles? On les torture, on les met... Je choque, là. Hein, on les torture, on les enferme à vie, on rétablit la peine de mort pour eux, parce que c'est un débat qui, tout de suite, enflamme l'opinion publique.
Oui, justement, en fait, dans le livre, il y a cette compréhension de ce qu'est la personne, le pédophile, là, qui est présent dans le livre. Et justement, l'intérêt du roman, c'est aussi de voir, de comprendre pourquoi il en arrive là, quels sont ses moteurs finalement par rapport à ça, et comment il peut s'en sortir. Est-ce qu'il peut s'en sortir tout seul? Est-ce qu'il y a des thérapies qui sont possibles? Est-ce que c'est de la chimie? Est-ce que c'est de la psychologie? Ou de la psychiatrie? Enfin, donc l'ensemble des deux. Effectivement, il y a tout un tas de questions. Après, j'ai noirci le trait sur la psychiatrie. Je pense qu'effectivement, il y a quand même des thérapies qui sont importantes à faire. Après, je joue un peu avec les psychiatres. Peut-être une petite vengeance perso aussi.
Le pédophile donc, que l'on découvre dans le roman, et on est dans sa tête, parce qu'on a l'impression qu'il est plein de bonne volonté, plein de bonne foi, qu'il aimerait vraiment sortir de la prison de ses désirs étranges, et il ne trouve sa place nulle part. Il explique qu'en prison, il est le bouc émissaire, il est victime de tout le monde. Dans la société, tout le monde le rejette, personne ne le comprend. Le vrai sujet aussi, c'est comment redonner une place dans la société à des individus qui, effectivement, ont des pulsions difficilement contrôlables.
Bah c'est, moi je pense que c'est un vrai sujet. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les thérapies qui sont réellement efficaces. Il y a des thérapies chimiques hein, qui font, mais après, si la personne ne prend pas ses médications, ça pose problème. Donc, jusqu'où on va faire confiance à quelqu'un qui est capable d'être attiré par une gamine de 10 ans et qui va trouver le premier moyen pour aller l'agresser.
Gilles Caillot, justement, dans votre roman, il y a cette balance va-et-vient entre l'éros et le thanatos, un peu en permanence. On sort indemne de l'écriture d'un gros roman, alors vraiment passionnant, haletant. Ça se lit très très vite, on ne le quitte plus. Et puis cette diversité, comme l'a dit Gilles, c'est un roman choral, cette diversité des points de vue donne une dynamique extrêmement agréable pour le lecteur. On sort indemne de l'écriture d'un roman sur un sujet aussi lourd, avec des séquences très violentes.
Alors moi j'ai l'habitude de faire des romans très violents, déjà. Donc... Après, celui-ci est quand même particulier. Celui-ci, j'y ai mis mes tripes, très clairement. Ça a été un roman. Dans certaines scènes, j'étais même au bord des larmes pour quand je les ai écrits, parce que je ressentais vraiment l'émotion de mes personnages, notamment quand je parle là, de l'enterrement. Donc là, la première partie qui est quand même plus lente, qui est plus du roman, on va dire, noir. Après, ça s'emballe. Effectivement, la fin, c'est du vrai thriller, où là, ça part dans tous les sens, les courses-poursuites, machin. Enfin, bon. Mais au début, en fin de compte, il y a vraiment toute cette atmosphère, cette ambiance lourde, pesante, personnage, vision, internalisation des caméras, on voit vraiment et on ressent. Enfin, moi, quand j'ai écrit le bouquin, j'ai ressenti ça. Et je pense que les lecteurs l'ont ressenti aussi. Et globalement, ouais, je suis sorti du truc. Moi, j'ai mis un an et demi pour l'écrire quand même. Je suis sorti éreinté quand même. Mais avec une satisfaction, parce que finalement, j'avais réussi à traduire ce que je voulais traduire. Donc vraiment, pour moi, bon, outre l'histoire, outre les protagonistes, outre l'intrigue, pour moi, c'était l'émotion. C'était ça que je voulais.
Alors l'émotion, elle est bien présente. L'analyse psychologique très fine, presque au scalpel, comme le médecin légiste, papa de cette adolescente violée et assassinée. Et puis un regard sur notre société. Juste une petite citation. Des couples à la dérive, des êtres devenus de véritables bombes à retardement, basculaient sans crier gare dans une violence outrancière. La société du pire grandissait, se nourrissait en silence des traumatismes et du malheur qui se banalisait. La banalisation du malheur et de la violence, Gilles Caillot, votre point de vue ?
On est en plein dedans. Aujourd'hui, la société n'est que ça, et plus ça va, pire c'est. On est vraiment dans une société de violence. Et malheureusement, je pense que... Et on a tous tendance à devenir violents, finalement, si on ne prend pas le temps de réfléchir... de se dire stop, je m'arrête deux minutes, je vais me poser, je vais prendre un verre en terrasse avec des amis, je vais profiter finalement du beau temps, je vais profiter du chant des oiseaux. Si on rentre dans cette spirale actuelle, et aujourd'hui on nous pousse à le faire, hein, la politique, le contexte géopolitique mondial, on a des peurs de plus en plus tenaces, et donc quand l'homme a peur, il a des réflexes qui ne sont pas forcément séduisants. Ils sont plutôt noirs, et c'est là qu'on se rend compte que finalement il y a une part très forte, une vraie dualité entre l'âme noire de l'homme et sa bienfaisance.
C'est la fin de cette table ronde que nous avons enregistrée le 8 juillet dernier dans le cadre des rencontres littéraires des Polars du Chat. C'était donc au Creusot, plus précisément au château de la Verrerie. Je voudrais remercier Patricia Félix pour sa confiance et son soutien. Si vous souhaitez vous procurer les romans des auteurs dont vous avez entendu parler ce soir, sachez que les romans d'Estelle Tarot, Orage et L'Impasse peuvent être commandés en version papier sur le site internet de son éditeur. Il suffit de pianoter www.tornada.fr, Tornada, s'orthographiant T-A-U-R-N-A-D-A. Les éditions Tornada ont été créées à Nice par Joël Maïssa en juin 2014. Leur ligne éditoriale est celle des polars, des thrillers et du fantastique. Quant au roman de Gilles Caillot, La couleur des âmes mortes, il est disponible en librairie, mais également sur le site des éditions du Caïman, www.editionaupurielducaïman.fr. Dernier morceau de musique avant de vous retrouver juste après pour vous confier le programme de Wagon Livre de mercredi prochain, 6 septembre.
Bercée par la vague blonde de tes cheveux comme une onde, je crois. Volée au-dessus du monde, mon cœur passe sous tes secondes pour toi. Quand tu pars souvent, je tremble que ma vie se désassemble sans toi. Pour un peu, j'oserais même te dire que c'est toi que j'aime, tu vois. D'amour, ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile, tu vois. Dire des mots d'amour comme les autres filles, ça je ne sais pas, tu vois, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. De toi. Tes yeux bleus me font rougir, y'a qu'un mot pour me prédire ma joie. Si un jour tu dois partir, je garderai ton sourire en moi. Pour un peu, j'oserais même te dire que c'est toi que j'aime, tu vois. Te parler d'amour, ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile, tu vois. Dire des mots d'amour comme les autres filles, ça je ne sais pas, tu vois, ce n'est pas moi. Tout ce qui s'y forme m'attache à toi. Pour un peu j'oserais même te dire que c'est toi que j'aime, tu vois. Ce n'est pas moi.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Ne manquez pas les 23 et 24 septembre prochains la 10e édition de Livres en Vigne au château du Clos de Vougeot. C'est entre Beaune et Dijon en Côte d'Or. Le président de l'édition 2017 sera le philosophe Luc Ferry. La liste des auteurs invités à Livres en Vigne se trouve sur le site de Livres en Vigne. Et vous y découvrirez également les débats qui y seront organisés. Sachez d'ailleurs que Wagon Livre vous proposera des comptes rendus courant octobre de cette fête du livre, première fête du livre au cœur du vignoble bourguignon. Alors que vous propose-t-on mercredi prochain 6 septembre à 21h sur Radio ? Nous resterons dans l'univers de la littérature policière avec une autre table ronde que j'ai eu le plaisir d'animer le 8 juillet dernier au Creusot lors des Polars du Chat. Vous y entendrez Sandrine Colette, Grand Prix de littérature policière 2013 et Prix Landerneau Polar 2016. Elle évoquera son dernier roman, Les larmes noires sur la terre, paru aux éditions de Noël. Et puis, vous découvrirez également Lorraine Schneider pour un premier thriller intitulé L'héritage de Lizzie. C'est au programme de Wagon Livre, mercredi prochain 6 septembre à 21h, toujours sur Radion. Retrouvez via internet les références, si besoin, des romans dont il a été question ce soir. Il suffit d'aller sur le site d'archives de l'émission www.yannickpetit.fr. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur votre radio locale. Merci de votre écoute et de votre fidélité. À la semaine prochaine. Au revoir.